48.
Solitude stands by the window. She turns her head as I walk in the room. I can see by her eyes she's been waiting. Standing in the scent of the late afternoon. And she turns to me with her hand extended. Her palm is split with a flower with a flame. Once again by her black silhouette, by her long cool stare and her silence. I suddenly remember each time we've met, and she turns to me with her hand extended, her palm is split with a flower with a flame.
Remue-ménage. Remue Ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue Ménage sur Radio Zone 93,8.
On a l'impression qu'on ne s'entend pas, que vous ne nous entendez pas, mais ça marche sûrement très très bien. Alors aujourd'hui, notre menu...
Tu m'y prends justement pas 6 mois à l'avance. Parce que
notre menu d'aujourd'hui... Ça marche ou ça ne marche pas? Oui. Notre menu d'aujourd'hui, nous avons en direct, qui se demande ce qui se passe à la technique, nos deux invités qui, avec qui on va d'ailleurs se retrouver toujours avec beaucoup de plaisir, on se retrouve les mêmes, nos deux invités de l'Inédit qui viennent nous parler aujourd'hui de deux nouveaux livres, on en parlera tout à l'heure, Marianne, et puis on continuera comment?
On continuera avec Eva Sarro qui est peintre et qui part exposer, qui est partie du reste exposée hier au Japon. Et on a eu la chance d'avoir une petite interview avec elle juste avant de partir. Mais avant tout ce long programme d'été, d'hiver, et ben voilà, de la musique avec... Là, on est un peu perturbé parce que...
Atahualpa travaille sur son établi, souffle sur les copeaux, sa femme a des chaussures, ses talons sont foutus, et c'est rien de le dire. Elzosa, elle est belle, l'enfant touche les clous, la mère colle une tape, sans rien dire et c'est tout. Je suis trop bien habillée, trop bizarre et trop riche. Oh, je me tords les poignets, je me sens con comme une quiche. Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire de moi? Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire de ça? Atahualpa travaille, torse nu, c'est drôle, il peut pas s'empêcher d'avoir l'air d'un guerrier. On devine sous la mèche le carquois et les flèches. Il s'est battu longtemps, le cow-boy a gagné. On l'a pas délogé, mais on l'a dépouillé. Je suis trop bien habillé, trop bizarre et trop riche. Oh, je me...
Ménage sur Radio Zone 93.8. Et maintenant, on va parler livres. On va parler livres avec la librairie L'Inédite, puisque Annette Zimmermann et Evelyne Merlard sont venues. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est du reste une habitude maintenant qu'on a pris. On a pris rendez-vous avec vous. C'est la librairie au studio. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux biographies, celle de Clara Schumann d'abord et ensuite celle de Frida Kahlo. Donc, on est avec des artistes, une musicienne et une peintre. Alors, tout d'abord, moi, je vous laisse présenter votre ouvrage, celui de Clara Schumann.
Alors, je vais d'abord préciser que ce livre dédié à Clara Schumann est édité chez Robert Laffont dans la collection qui s'appelle « Elle était une fois ». Et je crois que c'est une initiative très intéressante de cette maison d'édition. Et j'aimerais aussi préciser qu'il y a d'autres livres dédiés à des femmes remarquables qui sont édités dans cette collection. Et que nous distribuons dans notre librairie à l'Inédite à Carouge. Il y a donc un livre écrit par Françoise Sagan, Sarah Bernard, Le rire incassable, qui raconte donc l'histoire de cette grande actrice. Un autre livre, Alma Mahler, écrit cette fois par une autre Françoise, Françoise Giroux.
Très beau livre du reste.
Qui nous donne des informations tout à fait intéressantes sur cette personnalité
et
encore.
Sur son époque aussi.
Oui, sur l'époque, bien sûr, le cercle de Vienne, ces personnages intéressants. Et il y a encore une autre biographie de Kiki, reine de Montparnasse. D'autres seront à venir et effectivement, nous avons lu plusieurs de ces biographies qui sont toujours rédigées de manière très intéressante et, disons-le tout de suite, d'une manière facile à lire. C'est vraiment des livres aussi distrayants que des romans. Et je crois que c'est aussi important pour les lecteurs ou les lectrices de savoir que quand on se lance dans la lecture d'une biographie, ce n'est pas un genre... disons, difficile ou rébarbatif, mais au contraire, on se met dans la vie d'un personnage et c'est au moins aussi intéressant que des romans construits. Clara Schumann, tout le monde connaît un petit peu, j'imagine,
je crois
qui est Clara Schumann.
Je crois que tout le monde connaît Robert Schumann, mais par contre, Clara Schumann, j'ai bien l'impression qu'il y a très peu de gens qui connaissent.
Alors, bien sûr, dans ce livre, Clara est la personne la importante, mais on parle aussi beaucoup de Robert Schumann, dans le sens qu'elle a effectivement été, elle, liée absolument intimement et passionnément à son mari, et que notamment la dégradation de Robert Schumann quand elle était encore, elle, Clara, jeune, est un immense traumatisme. Et on assiste vraiment au problème de la relation du couple pendant la première partie du livre.
Non, moi, j'aimerais savoir justement un petit peu des détails de la vie de Clara. Déjà, avant qu'elle ait rencontré Schumann, d'où elle vient ?
D'où elle vient ? Elle vient d'une famille de musiciens, comme il arrive très souvent pour les virtuoses ou des artistes qui se sont illustrés dans la musique. Et elle a vécu depuis qu'elle est toute petite dans une atmosphère musicale. Son père était donc professeur de piano, notamment. Et comme à l'époque, donc dans les années 1820-1830, quand elle est toute petite, les élèves venaient habiter chez le professeur. C'était une sorte de petit internat pour des élèves musiciens. Et d'ailleurs, Schumann a fait partie des élèves du père de Clara.
Donc, c'est là qu'ils se sont rencontrés.
C'est là qu'ils se sont rencontrés, dans la maison des Wieck. Clara, d'ailleurs, on le voit bien dans la description de son enfance, a en fait d'abord su lire la musique avant une langue, sa langue maternelle qui est l'allemand. On raconte que déjà à 6 ans, elle était capable de jouer des pièces extrêmement difficiles et qu'en fait, elle parlait très très peu. C'est vraiment quelqu'un qui a été habité par la musique toute petite et qui a consacré l'essentiel de ses loisirs à l'apprentissage musical, qui est un apprentissage difficile et très très contraignant.
Elle a un père très sévère, je crois.
Oui, effectivement, le père de Clara était une personne extrêmement autoritaire, aussi extrêmement fière du don de son enfant, qu'il a évidemment tout de suite identifié, mais en même temps, il l'a vraiment, d'une certaine façon, brimé, en lui interdisant d'avoir, par exemple, des contacts avec des personnes extérieures. Et bon, plus tard, on le verra, en lui interdisant d'ailleurs d'épouser Schumann au moment où lui s'est déclaré. Bon, elle était très jeune, on le verra tout à l'heure.
Parce que elle, donc, au tout départ, elle l'interprète, elle joue du piano. Ou bien elle compose déjà lorsqu'elle est toute petite.
Je pense que c'est d'ailleurs, en tout cas dans le livre, il y a beaucoup plus d'importance accordée à l'interprétation et à la virtuose. Et on sent très fort que toute sa vie, jusqu'à la fin de ses jours, Clara donnera des récitals.
Alors avant de continuer de parler de Clara Wieck Schumann, nous on a un disque, il y a très très peu de disques où il y a des œuvres de Clara, puisqu'elle a elle-même composé. Alors nous on va profiter d'écouter un des premiers morceaux qu'elle a composé.
Thank you.
écoutions Le Souvenir de Vienne, impromptu pour le piano opus 9 de Clara Wieck Schumann, qui est la personne dont on parle maintenant, puisqu'on lui a dédié une biographie. Alors, on était dans son enfance, où elle a, en effet, elle s'est consacrée à la musique avec un père assez terrible, je crois. Et c'est à ce moment-là aussi qu'elle a rencontré Annette Robert Schumann.
Oui, Robert Schumann, qui est donc un élève de son père, qui a commencé des études de droit et se découvre rapidement un amour pour la musique, beaucoup plus fort que l'amour pour les études, et peut se rendre finalement à Leipzig, donc dans la maison de M. Wieck, où il rencontre Clara. Elle est beaucoup plus jeune que lui, mais très rapidement, elle se lie d'amitié avec cet étudiant de son père, qui est quelqu'un donc, qui parle très très peu, mais qui a une personnalité très forte et qui notamment lui permet de découvrir d'autres compositeurs que les compositeurs extrêmement classiques qu'elle jouait sous l'initiative de son père, qui lui avait donc des opinions extrêmement traditionnelles et conservatrices. Grâce à Schumann, elle découvre un autre genre de musique et il participe à des cercles de compositeurs et de jeunes Allemands qui essayaient de renouveler un petit peu tout le côté artistique de l'époque.
Et en fait, si le père s'oppose à cette relation, c'est qu'il veut, comme vous l'avez dit avant, vraiment faire de Clara une virtuose.
Oui, il a beaucoup d'ambition pour sa fille. Il se rend compte donc qu'elle a vraiment des capacités absolument fantastiques. Elle aime d'ailleurs énormément le récital. Pour elle, la griserie du concert est quelque chose qui va la porter toute sa vie. Elle va toujours consacrer énormément de temps, malgré beaucoup de difficultés, à cet amour du récital. Son père se rend bien compte qu'avec Schumann, si elle épouse Schumann, elle aura une vie plus difficile, notamment sur le plan financier, que lui n'est peut-être pas quelqu'un qui pourra vraiment consacré beaucoup de temps à Clara. Il a lui-même sa musique à composer, ce qui n'est pas un gage de fortune. Et dans ce sens-là, il s'oppose très très fort à l'union avec Robert Schumann. Pendant 4 ans, les deux amants devront attendre. Ils passeront même plus de 2 ans sans se voir, en essayant de correspondre d'une manière secrète, ce qui était pour elle une immense difficulté, dans le sens qu'elle était très liée à son père, que c'était une jeune femme quand même très soumise par éducation, et elle a dû lutter très très fort pour garder cette relation avec Robert Schumann.
Mais il n'avait peut-être pas tout à fait tort, son père, car il est vrai qu'une fois qu'ils se soient quand même mariés, malgré l'interdiction du père, elle va devenir la femme de Robert Schumann et quasiment que la femme de Robert Schumann, et elle cessait d'exister, en tout cas un long moment, en tant qu'interprète.
Moi, je n'ai pas tellement l'impression qu'elle a cédé beaucoup. Effectivement, dans les débuts de sa vie conjugale, elle a eu très vite des enfants, ce qui effectivement a été pour elle, disons, un obstacle à une carrière immédiate de concertiste. Mais elle a très rapidement quand même trouvé le temps, le courage de décider de refaire des concerts.
D'ailleurs, elle s'est obligée, non ?
Elle a aussi été obligée, bien sûr, sur le plan financier. Donc, Schumann n'était pas quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent. Il est tombé aussi rapidement malade, hein, comme on le sait. Et elle a dû assumer la vie du foyer très rapidement. Et elle l'a fait en reprenant sa carrière de virtuose. Et en tout cas, dans le livre, on ne sent pas du tout un problème de ce type-là. On a l'impression qu'au contraire, le fait d'avoir tenu tête à son père l'a construite en tant qu'adulte et lui a donné justement une possibilité de relation avec l'homme qu'elle voulait. Et dans ce sens-là, le livre est très positif pour cette union.
Et pourquoi le sous-titre de ce livre est, enfin le titre est Clara Schumann, oui. Sous-titre « La vie à quatre mains ».
Oui, bon, ça résume bien, c'est vrai, ce sous-titre, la vie de Clara, dans le sens que quand elle est petite, elle joue à quatre mains, disons, avec son père, qui est la personne qui la pousse à jouer et qui s'occupe beaucoup de ses prestations musicales. Ensuite, elle joue bien sûr avec son mari, qui l'aide à composer quelques-unes de ses pièces. Enfin, elle est influencée en tout cas par Schumann pour essayer de composer des Lieder. Et ensuite, elle a donc consacré du temps aussi à l'éducation musicale de ses enfants, notamment de sa fille aînée, avec laquelle elle a sûrement aussi joué à quatre mains. Et dans la dernière partie de sa vie, au moment où elle est veuve, où elle perd donc son mari, elle a rencontré un autre grand musicien qui a été pour elle quelqu'un de très important dans sa vie, c'est Johannes Brahms, qui était d'abord un ami de la famille Schumann et est resté jusqu'à la fin l'ami très intime de Clara. Dans le livre, la relation est un peu suggérée, dans le sens qu'on voit que Brahms n'a pas choisi une autre femme, mais ce sont des amis dans tous les sens du terme. Et elle jouera beaucoup de musique avec Brahms également.
Est-ce qu'on raconte aussi comment elle voyage pour aller faire ses concerts? Parce qu'à l'époque où elle jouait, c'était quand même pas si facile de se déplacer. Ouais. Déjà pour une femme toute seule, et ensuite, trouver des pianos, s'occuper des accordeurs, etc.
Alors bien sûr qu'il y a quelques anecdotes qui nous expliquent bien, effectivement, la difficulté de décider ses concerts, et aussi le problème de l'écoute de certains publics. On sent que, à l'époque, il n'y avait évidemment pas les possibilités d'écouter de la musique comme on l'a aujourd'hui. Il n'y avait que le concert, donc c'était très prisé, mais c'était aussi très critiqué. Et suivant la ville où elle joue, elle est adulée ou pas du tout. Et il y a certains concerts qui ont été pour elle des échecs. On a l'impression que c'est des échecs surtout parce que c'était pas à la mode de jouer, par exemple, du Brahms ou du Schumann. Qu'on préférait du Mozart ou du Beethoven. Et on sent bien que là, elle avait tout un travail de prise de conscience des esprits, disons, de artistiques découvrir. Qui régnaient dans certaines villes ou dans certaines coteries.
Alors donc, tout ce que vous pouvez nous dire là, vous pouvez le dire, puisque vous avez lu la biographie de Catherine Lepron, consacrée à Clara Schumann. On n'en dira peut-être pas plus, car nous vous conseillons de la lire. Vous pouvez la trouver tout de suite en vous adressant à la librairie L'Inédite de Genève, qui vient jusque chez nous pour nous en parler. Et avant de passer à un autre ouvrage, qui est celui de Frida Kahlo, on écoute encore un morceau de musique de Clara Wieck Schumann. Elle a très très peu composé. Là, c'est interprété par Monika von Salfeld au piano, Franziska Koscielny au violon et Gisela Reit au violoncelle. Donc, de nouveau, encore une œuvre de Clara Wieck Schumann. Thank you.
Mexique. Après avoir suivi les pas de Clara Schumann, nous passons derrière les pas de Frida Kahlo, une autre femme géniale, magnifique, que nous allons apprendre à connaître en partageant avec Evelyne Merlac la bibliographie qui a été écrite. Evelyne, par qui? Je ne sais même pas par qui ça a été écrit.
Une Mexicaine aussi, ou du moins une auteure française qui est d'origine mexicaine.
Alors on se laisse encore voguer vers le Mexique avec la musique mexicaine. Commencer. On avait déjà parlé de Frida Kahlo à Remue-Ménage. On adore Frida Kahlo, mais je crois qu'il est bien de représenter peut-être son histoire en entier, comme ça, essayer de parler un peu du circuit de sa vie, d'où elle est partie, où elle est allée, et par des trajets souvent fort pénibles, parce qu'elle a vécu une vie dure, hein, Frida Kahlo.
Oui, on pourrait parler de ses origines aussi, parce qu'au fond, elle est là, le résultat de deux origines très différentes. D'un côté, il y a sa mère qui, derrière elle, a des Indiens et des Espagnols dans sa famille et qui vient d'une ville assez célèbre au Mexique qui s'appelle Oaxaca. Et puis, elle, du côté de son père, alors, elle est européenne parce que son père est un Allemand qui, à la fin du 19e siècle, vers 1890, décide d'émigrer au Mexique après la mort de sa propre mère, d'ailleurs, en Allemagne. Et derrière l'Allemagne, il y a les Juifs de Hongrie. C'est en fait une famille qui vient de très loin et qui travaille dans la bijouterie. Et son père émigre donc au Mexique, rencontre la mère celle qui sera la mère de Frida Kahlo. Et ensemble, ils ont plusieurs enfants, dont cette avant-dernière fille. Ils ont quatre filles, d'ailleurs. Et l'avant-dernière, c'est Frida Kahlo. Alors, il y aura à la maison toujours ces deux influences, européenne et mexicaine. Il y aura deux langues aussi. Elle parlera très bien l'allemand. Son père va devenir un photographe au moment où il se marie. Il décide d'avoir apparemment une profession qui lui convient mieux. Mais ça va lui faire aussi le tour du Mexique. Donc, il va être un très bon connaisseur du Mexique. Et il va même devenir le photographe officiel du gouvernement, car il connaît très bien et il a aidé à redonner une importance, si on veut dire, à certains monuments mexicains. Bon, Frida, en fait, n'était pas, sûrement pas destinée à devenir une femme peintre. Elle fait des études normales et même assez bonnes. Et malgré, disons, qu'elle va souffrir apparemment d'une poliomyélite dans son enfance, elle s'en remet assez bien. Une jambe un peu... Elle boite un peu, mais disons, ça n'a pas de graves conséquences. Jusqu'au moment où elle atteint l'âge de 18 ans, quand là, alors vraiment, disons, un événement tragique va donner un tournant complet à sa vie.
Parce que cet accident va non seulement l'arrêter de vivre un moment à cet âge-là, mais en plus va transformer son existence tout au long de sa vie.
Absolument.
Elle va en souffrir.
Absolument. Elle dit elle-même, dans le jeu de la vie, elle a eu un tarot noir. Parce qu'en fait, à partir de l'âge de 18 ans, si on accepte, disons, cette poliomyélite infantile, elle va souffrir dans son corps d'une manière extrême. Disons, la vie avec son propre corps va être un long cauchemar.
jusqu'à la fin. Elle va mourir à l'âge de 47 ans. Elle naît en 1907. Elle meurt en 1954. Ce sont les vraies dates. Elle va toujours dire d'ailleurs qu'elle est née en 1910 parce qu'elle veut faire coïncider sa naissance avec le début de la Révolution mexicaine. Elle veut être une fille de la Révolution. Mais disons que bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais à l'âge de 18 ans, par un accident stupide d'un train qui croise un bus et renverse un bus, elle est transpercée par une barre de fer dans tout son corps. Et elle va être pendant 2 ans au lit, avec de grandes souffrances. Et puis, par la suite, elle devra porter des corsets toute sa vie. On finira par lui amputer une jambe. Mais elle va, en général, disons, souffrir intensément tout le temps. Et c'est, au fond, à cause de ça qu'elle va devenir peintre. Parce que, étant au lit, on l'installe le mieux possible chez elle. On ne sait pas quoi lui donner à faire, vraiment, parce que elle peut à peine bouger. Et un jour, sa mère décide de lui mettre un miroir au-dessus de son lit pour qu'elle se voie au moins.
Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je me souviens de ce passage absolument insensé où la mère offre à sa fille un miroir, cette fille qui ne s'est pas vue et qui tout à coup se découvre miroir.
Oui, et elle le met, il est au plafond, le miroir, parce qu'elle est couchée dans son lit, elle ne peut même pas s'asseoir. Alors, elle commence à s'observer beaucoup, à se prendre comme objet d'étude, parce qu'on lui donne en plus des crayons, des couleurs. Elle commence à dessiner et elle se prend, bon, son seul objet d'ailleurs d'étude, c'est elle, parce qu'elle ne voit rien d'autre dans sa chambre à ce moment-là. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle va être tellement attachée à l'autoportrait, parce qu'en fait, la grande majorité de ses tableaux sont des autoportraits d'elle-même. Enfin, des autoportraits, pardon. Et elle commence, mais justement, il semble qu'elle va vers la peinture, parce que la peinture va être le moyen pour elle de se sauver d'une certaine manière de l'état dans lequel elle se trouve. Ça va lui donner sa raison de vivre, au fond. Et ou son moyen d'expression. On dit qu'elle est presque, au fond, elle ressemble plus à un écrivain qu'à un peintre. Parce que ses tableaux sont comme des lettres. Et l'ensemble de son œuvre est comme une biographie qu'elle aurait peinte au lieu de l'écrire. Tous ces tableaux donnent une espèce de journal de vie, en fait.
C'est un petit peu ce qui manque d'ailleurs dans le livre qui te sert de base au récit que tu es en train de nous faire maintenant, donc cette biographie de Frida Kahlo. Des fois, on aimerait qu'à côté de chaque événement apparaisse le tableau qui correspond, parce que si on cherchait, on trouverait le tableau qui correspond à chaque événement dont elle parle.
Absolument. Là, dans ce livre-là, oui, il y a quelques tableaux qui font référence à, si je me souviens bien, à la perte d'un enfant. Elle aurait beaucoup voulu avoir des enfants, par exemple. Mais à cause de son accident, elle a été enceinte plusieurs fois, je crois 3-4 fois. Et on a toujours dû ou l'avorter ou elle a fini en fausse couche. Et elle a représenté ça dans ses tableaux. Il y en a d'ailleurs un ou deux dans le livre. Il y a aussi il y a des tableaux qui font référence à sa relation avec Diego Rivera. Il faudrait peut-être dire aussi.
Voilà, parce que Frida Kahlo, elle a fait des rencontres étonnantes quand même dans sa vie. Elle n'est pas restée clouée sur son lit, heureusement pour elle d'ailleurs, quand même trop longtemps. Elle y est retournée souvent entre-temps. Mais entre-temps, elle a fait des rencontres magnifiques. Et un personnage essentiel dans sa vie, c'est effectivement Diego Rivera.
Oui, c'est juste. Oui, elle reste 2 ans au lit, mais ensuite elle ressort, elle se cherche du travail. Et elle se met à fréquenter le milieu artistique mexicain, parmi lequel se trouvait Diego Rivera, qui était déjà à l'époque une vedette, une star de l'époque. On dirait aujourd'hui que c'était une star. Il est beaucoup plus âgé qu'elle, il a au moins 20 ans de plus qu'elle. Il a déjà beaucoup voyagé. Il a été en Union soviétique. C'est un membre du Parti communiste. Il est assez proche du gouvernement dans le sens qu'on lui demande de peindre des muraux, on dit, de grandes peintures murales, de grandes fresques qui racontent l'histoire de la Révolution mexicaine. Nous sommes là maintenant, disons, dans les années 1930. C'est l'époque, je crois qu'il s'est marié en 1929, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Et Diego Rivera est un peintre du social, de l'extérieur, de la vie des communautés. Il fait ça très bien et il, un peu partout, d'ailleurs non seulement dans la ville de Mexico, mais un peu partout dans les grandes villes du Mexique, il va peindre ses grandes œuvres. Et Frida va le rencontrer. Frida va être un peintre tout à fait différent. Elle, c'est le peintre de l'intérieur, le peintre de, disons, c'est exactement le contraire. Elle s'intéresse à elle-même d'abord. Lui s'intéresse plutôt aux autres. Elle parle de l'intérieur, il parle de l'extérieur. Et pourtant, ils vont avoir une très bonne relation en tant que peintre, disons, en tant que collaborateur de travail.
Mais ils ont une passion commune aussi. Tu disais tout à l'heure, Frida insistait pour dire qu'elle était née en 1910 parce qu'elle voulait être une enfant de la Révolution mexicaine. Ils ont entre autres cette grande conviction d'un changement important pour leur pays et ils vont la partager dans d'autres rencontres qu'ils vont aussi faire ensemble, d'autres personnages importants qu'ils vont accueillir dans leur maison d'ailleurs.
Absolument, absolument. Bon, j'ai déjà dit que Diego faisait partie du Parti communiste, elle va y entrer aussi. Et disons, on peut dire que dès sa jeunesse, même avant son accident, c'était déjà une jeune étudiante, pour ne pas dire écolière, qui se passionnait déjà pour des causes justes, pour le renouveau, pour la renaissance du sentiment patriotique mexicain, etc. Et avec Diego Rivera, elle va, tout ça va s'amplifier. Même au moment où elle sera en chaise roulante, elle continuera à participer toujours à des manifestations, par exemple. On voit d'ailleurs sur certaines photos Diego qui la traîne dans sa, enfin là, qui la pousse dans sa chaise roulante et elle qui tient des drapeaux et puis des slogans et parce qu'elle a, jusqu'à la fin de sa vie elle était une femme très militante. Et je crois que là tu faisais allusion à leur rencontre avec Trotsky,
voilà.
Qui après 1936 cherche est déjà en errance, disons, depuis un certain temps. Et après 1936, je crois que c'était la section trotskiste de New York, demande au gouvernement mexicain de bien vouloir accueillir Trotsky dans son exil avec sa femme. Et comme on demande ça au Mexique, parce que le Mexique jouit à cette époque-là d'un président assez libéral qui s'appelait Cárdenas, qui est un grand ami du couple Diego Rivera et Frida Kahlo. Et on demande même, c'est-à-dire on demande plutôt à Diego d'intercéder auprès du gouvernement pour qu'on accepte les Trotsky au Mexique, ce qui n'est pas une petite chose parce qu'il faut bien le garder. Il est